la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Un livre sur le zinc. Pour les habitués de l'émission, vous vous demandez sûrement qui sommes-nous. Eh bien, aujourd'hui, les enfants de vos chroniqueurs habituels ont pris le contrôle de la radio. J'ai donc avec moi aujourd'hui Nolan.
Bonjour.
Amy.
Bonjour.
Sacha.
Bonjour.
Paul.
Bonjour.
Et Sohan.
Bonjour.
Donc, Nolan, est-ce que tu as déjà imaginé un monde où les dragons ne sont pas simplement des créatures mythologiques, mais des êtres vivants, puissants et mystérieux ? Le livre que tu vas nous présenter, Dragons et Merveilles, de Turin, un auteur et illustrateur, qui va nous plonger dans un univers féerique où aventure, magie et légende s'entrelacent. À travers une histoire où chaque page regorge de merveilles, l'auteur nous invite à explorer des terres lointaines et des personnages fascinants, n'est-ce pas ?
Oui. C'est l'histoire des dragons qui règnent sur le monde. Tous ne sont pas ce que l'on peut croire méchants et justement nous aident. Ce livre parle de l'amitié entre dragons et humains. Il y a aussi les dragons qui font qu'on a l'hiver, les saisons. Dans ce livre, il y a aussi des contines, des berceuses et des chants. J'ai bien aimé ce livre car l'amitié y est beaucoup.
Et t'as un dragon que t'as préféré ?
Non.
Pas forcément ?
Pas forcément.
Est-ce que t'as bien aimé les graphiques du livre ? Les dessins ?
Oui.
C'était joli ?
Oui.
Et tu penses à partir de quel âge on pourrait aimer ce livre ?
Je sais pas, parce que ça fait pas peur, donc...
Tout le monde peut le lire, du coup ?
Oui.
Est-ce qu'il y a des dragons méchants ?
Oui. Il y en a, avec les images, on pourrait voir, oui, qu'ils ont l'air d'être méchants, et puis...
Est-ce que c'est un peu comme le royaume des dragons ? Le royaume de feu.
Non.
C'est pas pareil ? C'est quoi la différence entre les deux ?
Je sais pas.
Déjà, il y en a une où c'est une BD, et il y en a une autre où on voit vraiment les dragons, et c'est sur les dragons, et c'est pas une aventure de dragons.
Est-ce qu'ils ont des noms comme Antoine, Sabrina ou...
Ah oui, là, sur il y a des pages, et là, t'as le titre n'importe où. Soit tu l'as en bas, soit tu l'as sur le côté,
ah
en
oui.
haut.
Lago, d'accord, Lago.
Eh bien, merci Nolan.
De rien.
Nous allons maintenant passer au prochain livre. Et pour commencer, on pourrait se demander comment réagirez-vous si des enfants comme nous aujourd'hui avaient des pouvoirs extraordinaires ? C'est ce que nous découvrons dans la BD « Les enfants extraordinaires » de Vincent Cuvelier. C'est un auteur français qui est aussi connu pour sa série des romans « Émile ». Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui les ont lus. Et les enfants extraordinaires, c'est au fond une réflexion sur la différence. Et Émile, tu pourrais nous en parler un peu plus ?
Cette histoire parle d'enfants qui sont extraordinaires et magiques. Par exemple, John est le plus grand qui fait 2 mètres alors qu'il devrait n'en faire qu'un. Lila, la plus belle du monde, qui aide les animaux en difficulté. Il y en a beaucoup d'autres, 12 au total. Et à chaque page, il y a le dessin et l'explication sur les enfants. J'ai bien aimé lire avec les illustrations à côté de chaque enfant et elles sont jolies. Cette histoire est très bien, je vous conseille de la lire car les enfants sont rigolos.
Et est-ce que tu as un enfant que tu as préféré toi, avec son super pouvoir ?
Oui.
C'est lequel ?
Michel, Jean-Michel.
Et c'est quoi son super pouvoir à lui ?
Il complique tout.
Et toi, t'aimerais bien avoir un super pouvoir comme eux ?
Non.
Non ? Tu penses ce livre, il serait bien pour qui ? Qui c'est qui aimerait bien le lire ?
Des enfants.
Les autres, vous aimez bien des histoires de super-héros ?
Oui.
Ça dépend lesquels.
Voilà, c'est pareil.
Et est-ce que vous préférez les cambrioleurs ou les super-héros ?
Cambrioleurs.
Cambrioleurs.
Pareil. Parce que maintenant, on pourrait parler d'un livre que je pense beaucoup ont lu, qui est Arsène Lupin, qui a là été réédité en forme de BD. Donc c'est toute une réinterprétation graphique des aventures du plus grand maître du déguisement et de l'ingéniosité. Donc Sacha, si tu peux nous en parler un peu plus de cette BD.
Oui, ben, je vais vous présenter Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, en manga. Ce manga, il est fait à partir de l'œuvre de Maurice Leblanc. Maurice Leblanc, c'est un romancier français et c'est lui qui a créé Arsène Lupin. Donc ça parle au début du XXe siècle. Il y a un nouveau criminel qui apparaît. Il est insaisissable, il s'appelle Arsène Lupin. Il est gentleman cambrioleur, il collectionne les vols de grande envergure et il épuise bien des commissaires avec ses ruses à toute épreuve parce qu'ils n'arrivent pas à le mettre en prison. Il n'a pas fini de vous étonner. Il cambriole des forteresses imprenables, il s'évade de prison où il pourchasse une mystérieuse demoiselle aux yeux verts. On voit dans le livre l'arrestation d'Arsène Lupin, Arsène Lupin en prison, l'évasion d'Arsène Lupin, le mystérieux voyageur issu de Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, la mort qui rôde issu de Les confidences d'Arsène Lupin, la demoiselle aux yeux verts issu du roman du même nom.
Et toi, Swan, qui a une autre édition de Arsène Lupin, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette édition-là et si tu vois des différences avec celle que Sacha vient de présenter?
C'est un peu les mêmes chapitres. C'est les quatre premiers mêmes. C'est écrit par... ça a été inventé par Takashi Morita avec l'œuvre originale de Maurice Leblanc. L'éditeur, c'est Kurowaya. Je connais pas. Et ce n'est pas une BD, c'est un manga. Après, je vois pas trop de différence.
Et est-ce que vous aviez déjà lu Arsène Lupin en roman ou pas avant?
Moi, oui, une fois.
Moi, non.
Et est-ce que, par exemple, Sacha, tu vois beaucoup de différences? Est-ce que tu trouves que c'est plus facile à lire ou pas forcément?
Oui, déjà, c'est... on voit même plus de détails parce qu'on s'en rend plus compte parce qu'en roman, même si on les lit, on les oublie plus vite, je pense. Et là, c'est plus facile à lire aussi.
Et est-ce que tu as lu l'autre édition? Et toi, Swan, est-ce que tu as lu l'autre édition ou pas?
Non.
Non plus.
Non plus? Faudrait essayer et après vous nous direz laquelle vous avez préférée. Et par rapport aux dessins qui sont dedans, vous les trouvez comment?
Moi, je les trouve plutôt réalistes. Ils représentent bien ce que disent les personnages, je trouve.
Moi, je les trouve assez réalistes, mais je pense que c'est un peu plus personnalisé en fonction de chaque personnage. Parce que Arsène Lupin n'a pas les mêmes traits de visage que, par exemple, Gallimard, le plus grand policier qui cherche Arsène Lupin pendant toute sa vie.
Et là, maintenant que vous avez les deux éditions sous les yeux, est-ce que vous avez une préférence sur une des adaptations ou pas forcément?
Il y en a une qui fait plus peur que l'autre.
Laquelle?
Celle de Swan.
Et du coup, pourquoi tu trouves qu'elle fait peur?
Elle est plus sombre... Elle fait plus cambrioleur que l'autre qui fait il se balade dans la rue.
C'est vrai, il fait plus gentil l'autre. Et vous avez lu plusieurs tomes ou vous avez lu que le premier tome?
Moi j'ai pour l'instant que 3 tomes, mais il y en a en tout 10. Mais les 3 premiers je les ai pas encore lus, j'ai lu que le premier parce que c'est déjà assez long et que je les ai lus il y a pas longtemps.
Moi, il y en a qu'un. Et en fait, dedans, il y a plein d'histoires d'Arsène Lupin qui sont regroupées. Et qui se suivent un peu. Que, par exemple, dans les livres, ça fait plusieurs livres qui n'ont aucun rapport. Et là, ça fait un seul et même livre.
Oui, moi, c'est un peu pareil. À la fin, il y a tout le temps écrit « à suivre ». Donc, en fait, si on peut lire qu'une histoire, mais on ne peut pas lire le dernier avant d'avoir lu le premier, parce que sinon, on ne comprend pas l'histoire.
Et est-ce que ça te donne envie de lire la suite, du coup, d'avoir lu le premier tome?
Oui, parce qu'à chaque fin de tome, il y a un suspense qu'on ne sait pas. Donc, ça donne envie d'acheter le deuxième.
Et à partir de quel âge vous conseillerez de lire Arsène Lupin? Parce que c'est quand même un manga, donc c'est pas facile à lire non plus.
À peu près mon âge, 10-11 ans.
Ouais, moi aussi, 10 ans, je pense.
Eh bien, maintenant, on peut changer de super-héros. On peut maintenant passer à My Hero Academia, qui va nous être présenté par Paul. Et on peut se demander si le véritable pouvoir ne résiderait pas seulement dans la force, mais aussi dans la volonté de vouloir protéger les autres. My Hero Academia, c'est un roman de... Bon, excusez mon japonais, Koei Horikoshi. C'est une célèbre mangaka, mais elle utilise un pseudo masculin, car au Japon, il est encore mal vu qu'une femme soit mangaka. Donc, dans ce manga, on est plongé dans un monde où tout le monde, enfin quasiment tout le monde, possède des super pouvoirs, sauf un jeune garçon, Izuku Midoriya. Pourtant, son rêve est de devenir un super héros. Et du coup, il va parcourir un chemin semé d'embûches et de sacrifices. Nous rappelle qu'être un héros, ce n'est pas seulement avoir des pouvoirs, mais avoir le courage de se battre pour ce qui est juste. Et maintenant, Paul va nous faire découvrir cet univers fascinant, où les héros ne sont pas seulement définis par leur bataille, mais aussi les valeurs qu'ils incarnent.
Oui, Izuku est le personnage principal. Il vit dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs. Courir très vite, faire de l'électricité. Il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. Izuku va aller au lycée de UL pour rejoindre l'académie des héros. Sauf qu'il ne peut pas passer le test car, comme 20% de la population, il n'a pas de super pouvoir. Armit, le plus grand super-héros de tous les temps, lui propose de donner son pouvoir 2 mois avant les tests. Il doit s'entraîner pour apprivoiser ce grand pouvoir qu'il tuerait s'il ne sait pas le maîtriser. On suit sa progression, les défis qu'il doit relever. My Hero Academia est un shonen manga écrit et dessiné par Koi Horikoshi. Il est pré-publié de juillet 2014 à août 2024. Dans le magazine Shonen Jump, la version française est publiée par Kiwoon depuis avril 2016 et compte 40 tomes en novembre 2024. En shonen et une ligne éditoriale de manga qui vise un public composé d'adolescents masculins allant des dernières années de l'école primaire, environ 10-12 ans, jusqu'au lycée, environ 15-18 ans. J'aime ce manga parce qu'il y a plein d'actions et toujours envie de savoir ce qui va arriver à Izuku.
Est-ce que t'as un personnage préféré dans le manga ?
Ouais, Shoto, sauf que je l'ai pas dit.
Bah c'est pas grave. Et pourquoi c'est ton personnage préféré ?
Parce que je le trouve fort, beau.
Et est-ce que t'aimerais bien avoir un super pouvoir comme eux ?
Non.
Non ?
Pas vraiment.
Sacha, est-ce que tu l'as lu, toi, My Hero Academia ?
Ouais, moi je les ai lus jusqu'au 20, je crois.
Et t'en as pensé quoi ?
Alors moi j'ai pensé que c'était bien, mais après je trouve ça un peu nul que quand All Might, le plus grand des super-héros, il lui passe son pouvoir, lui il le perd.
Ouais, après c'est le jeu. Hein.
Oui.
Et est-ce que il y a les mangas, enfin il y a l'anime qui existe par rapport au manga, est-ce qu'il y en a un de vous qui l'a vu ? Non ? Et est-ce que ça vous donne envie de le voir ou pas, d'avoir lu les mangas ?
Oui.
Oui. Moi j'ai pas lu les mangas, j'ai lu c'était un manga mais sous forme d'un gros livre.
Ah oui, okay.
Où il y avait je pense
un
ou deux tomes dedans et ça expliquait un peu la même histoire. Et moi j'ai bien aimé, sauf que ça, je trouve que ça raconte un peu beaucoup des super-héros, mais enfin c'est un peu le livre. Mais moi, je suis pas trop fan des mangas de super-héros. Après, je voudrais bien regarder l'anime, mais...
Et si tu regardes pas les trucs de super-héros, tu regardes quoi, alors ?
L'histoire qu'il y a autour.
Et maintenant, passons à la pause musicale. Nous revenons après la musique.
Peut-être bien que j'ai un petit gant au fond de la tête. Peut-être bien que ce petit gars est dans ma tête. Une belle dose de conneries aussi, bien répartie dans les couloirs de mon ciboulot. Coco, ouais, ça ne fonctionne seulement quand je tiens le bon bout au bon endroit, au bon moment. Faut dire que ça ne m'arrive
que très rarement. Moi j'avoue sincèrement que le doute jour et nuit me fait transpirer de sueur chaude ou froide. Les idées grises émises par mes esprits me viennent en cascade. Oh, je rêve d'escapade, mais stagne d'humeur un peu maussade. Un nuage de migraine me crochette les arcades. Oh, je sais plus trop ce que j'en pense. Mais tant mieux si ça se danse, tant mieux si ça se danse.
Tant mieux si ça se danse.
Et peut-être bien que j'ai un petit grain
au fond de la tête.
Et peut-être bien que ce petit grain
est dans ma tête.
Sans caisse de fonction, je vais pas plus vite que la musique, mais je connais la chanson. En bord de mer ou au coin de la rue, jamais tiré d'affaire, pas encore foutu. Y'a possibilité, mais peu de probabilité de me voir changer pour le moment. Un coup ça me plaît, l'autre ça me fait chier. Envie de foncer ou de tout plaquer, de mentir, de m'étonner ou de modifier ma vérité. Souvent, souvent j'ai du mal, si souvent. À nuancer, rien ne m'en voulait pas.
Non, ne m'en voulait pas.
Non, ne m'en voulait pas.
Ne m'en voulait pas.
Mais par là, après on verra. De toute façon, je sais pas d'où vient la panne sèche, mais je suis toujours à la dèche. Même s'il n'y a plus de place à la crèche, à l'asile, il y en a.
On est tellement dans le même cas.
Et tiens, que j'ai un petit gain
au fond de la tête.
Ce petit grain
est dans ma tête.
Eh bien, nous revoilà, nous sommes de retour, et bonjour à nos nouveaux auditeurs. Et maintenant, nous allons parler du livre « Je suis moi et personne d'autre ». Grâce à ce livre de Baptiste Beulieu, on peut se demander si le véritable voyage ne serait pas celui à l'intérieur de soi. Ce livre plein de beauté permet de se découvrir et de s'accepter tel que l'on est. Restez avec nous pour en savoir plus sur ce livre émouvant, qui nous rappelle que parfois, être soi-même est le plus grand des défis. Amy, tu peux nous en parler s'il te plaît ?
C'est une histoire sur le fait qu'on a le droit d'être soi-même, de dire non si on veut et de ne pas faire ce que les autres veulent qu'on fasse ou qu'on soit. C'est aussi une histoire sur l'école et l'amitié. Nos amis nous aiment tels que nous sommes. Les vrais amis ne veulent pas nous changer. Je vous explique un peu plus l'histoire. C'est un petit garçon qui s'appelle Francisco. Il a un porte-manteau avec son prénom dessus. À côté de lui, il y a Victoria, une nouvelle. Puis Zachary, son copain avec Jules. Dans la récréation, Jules et Zachary lui demandent s'il veut jouer au foot. Alors, pour ne pas les vexer, il dit oui. Dans la classe, la maîtresse nous demande quelle est notre couleur préférée ? Il dit le rose, le rouge. Dans l'autre récréation, Victoria lui dit « Moi aussi, je veux jouer avec les garçons, mais ils disent que le foot, c'est pas pour les filles. » Alors, Elle lui dit qu'en premier, ils vont jouer au foot et après à la corde à sauter. J'ai bien aimé l'histoire parce qu'il y avait de l'amitié dans l'air.
Est-ce que tu as bien aimé les dessins qu'il y avait dans l'histoire ?
Oui.
Ils sont jolis ?
Oui.
Et du coup, la petite fille, elle est en fauteuil roulant, c'est ça ? Ou c'est la maîtresse ?
C'est la maîtresse.
On sait ce que c'est son handicap.
À la maîtresse ? À la maîtresse.
Non.
Et toi, t'as bien aimé toute l'histoire, de quoi ça parle ?
Oui.
Et tu trouves que c'est important ou pas que tout le monde puisse lire l'histoire pour être au courant de ça ?
Oui.
Et donc ça parle du lien entre filles et garçons ?
Un peu.
Est-ce que ça parle de l'amitié filles-garçons ? Parce que des fois, il y a des gens qui croient pas à l'amitié filles-garçons et voilà.
Bah oui.
Et toi, t'aurais bien aimé être copain avec eux ?
Oui.
Est-ce qu'il y a beaucoup à lire dedans ?
Non.
Est-ce que tu penses que ce serait bien, par exemple, qu'une maîtresse, elle lise ça aux enfants de sa classe, par exemple, pour qu'ils comprennent tout ça sur les sujets, sur la différence ?
Oui.
Et toi, t'aurais bien aimé qu'on te le lise à l'école quand t'étais plus petite ou même maintenant ?
Oui.
Ah oui, c'est qui l'auteur ou l'illustrateur ?
Baptiste Beaulieu.
Tu l'as lu à quel âge, la première fois que tu l'as lu ?
9 ans.
Et aujourd'hui, t'as quel âge ?
9 ans.
Si vous voulez, maintenant, on peut changer d'école et passer d'une école toute mimi avec des élèves qui s'entendent tous bien à une école, disons, différente. Parce que dans cette école, il y a beaucoup de bagarres, de règlements de compte. Dans cette BD ou roman graphique High School Mercenary, on se plonge dans un univers où les combats et la stratégie ne se limitent pas au terrain de sport, mais s'étendent beaucoup plus loin. Donc dans cette série, un jeune mercenaire se retrouve dans un lycée où ses compétences en combat sont mises à l'épreuve. Entre action, tension et rebondissement, ce manga nous emmène dans une aventure où l'intelligence et la force se confrontent dans un cadre totalement inattendu. Sacha, à partir de quel âge tu conseillerais ce manga vu qu'il y a quand même de la violence ? Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
À partir de 11 ans, je pense. C'est un webtoon, c'est en fait une bande dessinée coréenne et on peut la retrouver sur les réseaux. Et celle-ci parle d'Injin Yo, qui est alors âgé de 8 ans et le seul survivant d'un crash d'avion. Il atterrit dans un pays en guerre et où il est secrètement entraîné pour devenir un mercenaire. Plusieurs années plus tard, il retourne dans son pays avec de nouveaux papiers d'identité où l'accueillent son papy et sa sœur. Sa sœur se fait harceler par le fils et la fille d'un député. Injin va mettre fin au harcèlement en faisant passer à la télé les vidéos de harcèlement faites par la fille et le fils du député. Ses aventures ne vont pas s'arrêter car quelques jours plus tard, Yona Shin, la petite fille du PDG de la plus grosse entreprise du pays, vient finir sa scolarité dans la classe de Injin. Sa petite sœur Dayeon est très amie avec Yona. Afin d'éviter un enlèvement, le garde du corps de Yona fait des recherches sur Injin car il n'est pas dans la liste des élèves comme il est nouveau dans la classe. Yona et Dayeon sont kidnappés sous les yeux du garde du corps et d'Injin qui par la suite cherche à la sauver. Et à propos des auteurs, le scénariste YC et le dessinateur Rak Hyun sont de brillants auteurs coréens. Ensemble, ils ont inventé High School Mercenary, connu tant en Corée qu'à l'international.
Toi, Sacha, ce livre, tu l'as lu en papier comme ça ou tu l'avais lu sur Webtoon ?
Je l'ai lu en papier comme ça.
Et est-ce que tu as déjà lu des livres sur Webtoon ou pas ?
Non.
Après, pour présenter la plateforme rapidement, c'est une plateforme où il y a de jeunes auteurs qui peuvent publier des planches de BD. Et après, ils peuvent avoir la chance d'être repérés si de nombreuses personnes la lisent, leur histoire, pour pouvoir être ensuite publiés. Voilà, pour présenter brièvement. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui avaient déjà lu sur Webtoon ou pas ? Non ? Et par exemple, Swan, vu que tu lis un peu des mangas ou des choses dans ce style-là, est-ce que tu avais déjà lu High School Mercenary ?
Oui. J'ai lu le 1, le 2, le 3, le 4, jusqu'au 6. Et j'aime beaucoup cette histoire parce qu'il n'y a pas forcément de la violence, mais parce qu'il y a aussi, comme vous l'avez dit, des règlements de compte et aussi parce que... Ah, je sais pas comment trop dire. Sacha, comment tu décrirais, toi ?
Moi je pense qu'il y a aussi un peu de suspense de découvrir de nouveaux personnages parce que oui aussi j'ai oublié de le dire, il doit garder son identité secrète parce que là où il a été entraîné pour être mercenaire, En fait, il cherche à le retrouver parce que comme il est revenu chez lui, normalement, il n'a pas le droit. Et il fait croire qu'il est mort à ces personnes qu'il avait entraînées. Et du coup, on va voir dans l'histoire qu'il va aussi devoir combattre ceux qui l'ont entraîné à devenir mercenaire.
Est-ce que vous préférez plus le côté combat dans l'histoire ou plus l'histoire en général, qu'est-ce qui va leur arriver, tout ça, tout ça ?
L'histoire en général.
Moi, je pense un peu tout.
Un peu tout, ouais.
Moi, j'aurais préférence à dire l'histoire, mais après, les deux mélangés, ça forme quelque chose de vraiment sympa.
Et est-ce que vous avez déjà lu d'autres histoires similaires que vous pouvez conseiller ou Enfin, pas forcément similaires, mais d'autres mangas comme ça que vous avez bien aimé.
Dr. Slump.
Ça parle de quoi, ça, Paul ?
D'un docteur qui est un peu fou et un peu aussi obsédé.
Et qu'est-ce qu'il fait, ce docteur ?
En fait, il est très, très, très intelligent. Du coup, il a créé un robot. Et du coup, il y a plein de mini-histoires. En fait, dans un livre, il y a plusieurs histoires. C'est pas un rapport.
Et après, le style, il fait un peu penser à Dragon Ball. Est-ce que tu avais vu
non,
aussi...
Non, c'est pas du tout...
Le style des dessins.
Le style des dessins, non, parce que Dragon Ball, c'est vraiment sur les précisions. Alors que là, Dr. Slump, c'est en général. Aussi, je trouve que... on dirait un peu que ça a été fait sur ordinateur, les dessins.
Ouais.
Et du coup, par exemple...
Dans High School Mercenary.
Ouais. Par exemple, moi j'ai lu Don Manga, mais ça ressemble pas trop vu que même la manière de faire les ombres et tout, c'est pas fait pareil.
Ouais, parce que du coup, vu que ça c'était sur une plateforme de base qui est numérique, c'est pas les mêmes styles, je pense. C'est pour ça que c'est différent d'un manga original.
Aussi, comme autre livre qui ressemble un peu à High School Mercenary, bah il y a Arsène Lupin que j'ai un peu présenté tout à l'heure, qui est pas du tout la même histoire, complètement à côté. Mais où les dessins ressemblent beaucoup.
Maintenant, nous allons passer à notre avant-dernier livre. C'est le spectaculaire dépassement Les Bornes. Donc, vous connaissez tous Arsène Lupin. On vous l'a présenté déjà plusieurs fois dans l'émission. Mais là, ce ne sera pas Arsène Lupin, mais Arsène Lapin. Donc, je ne vais pas en dire plus. Et je vais laisser Nolan présenter.
C'est l'histoire de Spectaculaire, une bande de copains fous de courses de voitures. Il y a les gentils, Petroni, une fille de caractère qui ne se laisse pas faire, Félix, un homme qui s'enrhume quasiment tout le temps, Eustache, un homme qui ne pense qu'à manger, Évariste, un homme qui est prétentieux. Prosper Pipolet, un inventeur qui fabrique deux voitures pour participer à la course qui relie Paris à Berlin, et le méchant, Arsène Lapin, qui pille des banques pour de l'argent. Résumé. Cette bande de spectaculaires entend dire qu'une course de voiture qui reliera Paris à Berlin le printemps suivant. Les spectaculaires sont convoqués par le président du conseil qui est aussi ministre de l'Intérieur. C'est parce qu'Arsène Lapin a pillé l'argent du président et une boîte contenant des papiers secrets. Ils doivent donc participer à la course, d'où Prosper Pipolet construit les deux voitures pour pouvoir participer. Ils doivent absolument la gagner pour récupérer les affaires du président. Le jour de la course, ils partent et vont avoir bien des ennuis durant la course. J'ai bien aimé ce livre car la course est parsemée d'embûches et des aventures bien difficiles.
Moi j'ai juste une question. Tu préfères les spectaculaires ou Arsène Lapin ?
Les spectaculaires.
Et pourquoi ?
Parce que Arsène Lapin, il vole de l'argent et tout ça. Alors c'est intéressant, mais bon, les spectaculaires qui font des courses et tout ça, en plus il y a des aventures, donc je trouve que c'est mieux.
Et est-ce que t'avais lu Arsène Lupin, le vrai ?
Non.
Enfin, le...
Non.
Parce que t'aurais pu nous dire ce que t'as préféré entre les deux. Quelle version
non, je vais lire Arsène Lupin.
C'est un manga ou une BD ?
C'est une BD.
Moi j'ai une question, est-ce qu'on en parle beaucoup de Arsène Lupin et est-ce qu'il participe à la course ?
Non, mais il se fait passer pour un autre homme.
Est-ce qu'il a des... comme dans le vrai Arsène Lupin, est-ce qu'Arsène Lapin a des stratégies, il a élaboré une stratégie pour voler les papiers secrets et tout l'argent ?
Oui, il a une espèce de bâton qui fait en sorte qu'il peut sauter de fenêtre en fenêtre.
Ah oui, c'est pas une stratégie, c'est plutôt un outil très
ouais.
Utile.
Sacha, t'as dit Arsène Lupin et pas Arsène Lapin. Mais j'ai pas compris quel est le rapport entre comment récupérer les papiers et la course.
Ben en fait, ils doivent la gagner pour récupérer les papiers.
Mais genre Arsène Lupin, il a dit, il a posé les papiers genre en disant celui qui gagnera la course les aura.
Ouais, c'est ça. Il a envoyé un mot pour dire que il faut qu'il gagne la course pour pouvoir récupérer les papiers.
Après, je dis, il y a entre Arsène Lupin et Arsène Lapin, il y a quasi que des différences, mais il y a un point. Que c'est un peu pareil, c'est que Arsène Lupin et Arsène Lapin sont très provocateurs.
Ouais, et puis lui aussi c'est un gentleman cabrioleur.
Ouais, et moi je trouve que quand même Arsène Lupin il est presque plus gentleman que cambrioleur. Parce que pour en revenir au livre que j'avais lu, il y a presque qu'une histoire de vol et les autres c'est qu'il aide des personnes, par exemple des fois à survivre. Et il les aide à échapper à la prison, des fois.
Et est-ce que la présentation, ça t'a donné envie de lire Arsène Lapin ?
Ouais. Attends, tu viens de dire que des fois, Arsène Lupin, dans ton livre, il aidait les gens, des fois ? Ah, bah, on a trouvé une différence. Dans le mien, il n'est pas forcément méchant, mais il aide pas forcément. Même, des fois, il tue des gens.
Okay. Ah, ça, c'est pas cool, hein.
Ben moi, il sauve des gens de la mort.
On pourrait se demander si l'amour naissait dans l'espace, à des millions de kilomètres de la Terre. Donc Phobos, de Victor Dixon, c'est un écrivain français qui est connu pour des romans de science-fiction et de fantasy. Il va nous plonger dans un futur où 12 jeunes candidats, donc 6 filles et 6 garçons, vont être envoyés vers Mars pour une mission pas seulement scientifique, mais aussi pour un jeu télévisé. Donc c'est un roman qui mélange la manipulation médiatique, la passion, les secrets, l'amour et la science-fiction. Donc l'histoire, elle suit du coup ces 12 candidats. Ils vont être dans leur cabine. Dans le premier tome, on suit tout le voyage du coup de la Terre à Mars. Et en fait, ils sont séparés en deux parties. Il y a toutes les filles d'un côté et tous les garçons de l'autre. Et une seule fois par semaine, ils peuvent se rencontrer. Et en même temps de suivre leur histoire, on suit aussi sur la Terre le point de vue d'une dame qui est un peu derrière tout ça. Et du coup, on suit qu'il y a plein de rebondissements tout le long de l'histoire. Et moi, ce que j'ai bien aimé avec ce livre, c'est que même s'il y a 5 tomes, il y a toujours de nouveaux rebondissements et on apprend toujours plein de nouvelles choses. Et on s'ennuie jamais malgré ce que ça peut paraître un peu redondant, ça l'est pas.
À quel âge tu conseillerais ce livre ?
Moi, je pense que faut avoir 13-14 ans, ça c'est bien. Parce que, après, vu que c'est quand même un roman, c'est pas une BD, et que c'est quand même assez long, faut s'y accrocher. Après, il n'y a pas plus de violence ou plus de sexualité que ça, donc ça reste quand même assez accessible.
On sait combien il y a de filles et de garçons ?
Ouais, il y a 6 filles et 6 garçons, parce que, en fait, quand ils arrivent sur Mars, ils doivent se mettre par paire, on va dire, et pour après coloniser Mars.
Comme tu dis, s'ils se mettent en paire, ils choisissent pas leur...
Bah, en fait, le but de la traversée du coup de la Terre à Mars, c'est que en fait, ils se rencontrent une fois par semaine, ils choisissent qui c'est qu'ils veulent rencontrer, et ils discutent. Et à la fin, quand ils arrivent sur Mars, ils doivent faire un classement des personnes qu'ils préfèrent, et ils feront une moyenne, et ils se retrouveront du coup, ils se marient entre guillemets, comme ça qu'ils appellent, avec la personne qu'ils auront mis le plus haut dans leur classement. Et c'est comme ça après qu'ils... choisissent les pères, en fait.
Et donc, dans les pères, ils se reproduisent ensemble pour coloniser Mars ?
C'est un peu le but.
Okay.
Et est-ce qu'ils ont fait pareil avec d'autres planètes, ce jeu télévisé ?
Bah, en fait, au début, c'est que sur Mars, le temps qu'ils allaient coloniser, sauf que, bah, après, je vais pas spoil, il y a plein de rebondissements qui font que c'est la seule qu'on suit, quoi.
Et s'il y a deux garçons ou deux filles qui choisissent la même personne au plus haut ?
Ils peuvent pas, en fait, ils choisissent que... Bah, par exemple, les filles, elles vont faire une liste avec que les garçons. Ça, c'est les règles, on va dire, du jeu télévisé. Mais après, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des affinités entre les filles ou entre les garçons.
Est-ce que les 6 garçons et 6 filles, ils ont été choisis par pur hasard ou c'est eux
qui... Ouais, il y a eu des présélections. Et après, ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut... Il y a des petits flashbacks dans le roman des présélections et de leurs histoires d'avant. Et après, ils ont fait un autre roman à côté, qui s'appelle Phobos Origins, je crois, où là, ils parlent vraiment de avant l'émission et de comment ils en sont arrivés à cette émission.
Donc, dans l'autre livre, ils parlent plutôt de leur vie personnelle.
Ouais, c'est ça. Après, là, on a quelques flashbacks dans le livre qui nous montrent, parce qu'il y en a qui sont un peu importants pour savoir pourquoi ils sont comme ça.
Et est-ce que, comme ils sont par paire et que Mars, c'est quand même... Enfin, c'est grand, mais est-ce que c'est possible que deux paires se rencontrent?
En fait, ils sont dans une seule colonie, tous ensemble.
Ah. Est-ce qu'il y a des handicapés?
Non, il n'y en a pas dans le... Bah si, en fait, il y en a. oui, du coup, si, je crois, il y en a un. Mais après, en soi, ça ne les empêche pas, c'est fait... tout est aménagé pour, il n'y a pas de problème.
Et ils y vont, ils rejoignent Mars avec...
Une fusée.
Une fusée,
ouais. Super fusée, parce qu'il faut de la puissance quand même pour aller jusqu'à Mars. Et sur Mars, ils ont une petite base toute prête déjà. Genre où il y a de l'air, il y a des machines, il y a des panneaux solaires.
Mais pourquoi des panneaux solaires?
Bah pour créer l'électricité, du coup. Il y a le soleil qui tape et ça fait de l'électricité. Et c'est un roman, du coup, il n'y a pas de dessin ni rien.
Est-ce qu'il y a des plantes?
Sur ouais, il y en a un qui est on va dire ingénieur en plantes, je pense pas ça se dit trop comme ça, mais et son but du coup lui en fait chacun ils ont un petit rôle. Par exemple, il y en a une, elle va suivre une petite formation avant de partir de médecin au cas où il y a un problème. Et ben il y en a un, il a une formation pour essayer de créer des plantes et de pour leur survie, pour qu'ils puissent avoir assez à manger, tout ça.
Et est-ce que il y a eu des problèmes dans la base, par exemple un manque d'air?
Il y a que ça. Il y en a une. Pareil, dans le premier tome, c'est vraiment genre juste comment ils y vont. Mais après, dans les autres tomes, du coup, ils sont sur Mars un peu. Et du coup, il y a plein de problèmes, plein de rebondissements auxquels on s'attend pas forcément, en fait. Ah oui, et du coup, il y a 6 tomes, je crois, en tout. Non, enfin, du coup, il y a 5 tomes où c'est l'histoire Phobos. Et après, en plus, du coup, il y a le Phobos Origin qu'ils ont fait juste avant.
Et Phobos, c'est un nom anglais?
Oui, je crois. Mais pourtant, mais l'auteur, il est français, par contre.
Et ça veut dire quoi?
Je pense que ça doit avoir une relation avec l'espace, mais après, je m'avance pas non plus trop.
Et c'est qui l'édite, enfin, qui le met en librairie?
Du coup, Phobos, en fait, ça veut dire Mars. Et après, c'est édité chez Robert Laffont. Et ils ont... Ouais, il a été édité en BD, mais il n'y a que les 3 premiers tomes qui ont été publiés. Pour l'instant. Mais ils sont super beaux, les dessins, je trouve qu'ils sont quand même très représentatifs de ce qu'on peut s'imaginer par rapport au livre.
Et tu les as lus en BD
J'avais lu la première, je crois.
Et du coup, ça représentait bien ce qu'il y avait dans en roman?
Mais en fait, je trouve les personnages, ils sont très représentatifs de comment on se les imagine. Mais après, la base et tout ça, je trouve c'est un peu moins comment on se l'imagine. Genre moi, je m'imaginais quelque chose de plus... Rudique. Non, de très plus rudique, et eux c'est plus futuriste du coup.
Et dans les images, est-ce qu'il y a des images des fois dans le roman sur certaines pages?
Non, il y a juste la couverture où il y a un dessin, mais sinon il y a pas du tout de dessin.
Et quand tu dis que les images elles sont belles, c'est sur la
BD, ouais. Ouais.
C'est pas trop dur pas trop long à lire.
Bah, en fait, le livre, il est un peu épais et un peu long. Enfin, surtout les deux derniers tomes, les premiers tomes, ça va encore. Mais après, ça se lit quand même très vite parce que c'est une écriture qui reste assez simple. Donc, ça va. Et je pense qu'on peut passer au prochain livre, sauf si vous avez encore des questions. On peut se demander si un simple voyage devenait une aventure humaine, pleine de sens et de découvertes. La longue marche des dindes, de Caitlin Clark, une autrice américaine de Chicago, nous plonge dans une histoire où les dindes ne sont pas seulement des animaux, mais un vrai symbole de liberté, de lutte et de résilience. À travers ce récit émouvant, l'autrice nous fait réfléchir sur le sens de la vie, de la liberté et des choix que l'on fait face à l'inconnu. Partons, grâce à Nolan, à la découverte de cette aventure singulière, pleine de réflexions et d'émotions.
C'est l'histoire d'un petit garçon nommé Simon Green qui a perdu sa mère. Donc son père est parti et s'est retrouvé avec son oncle, sa tante et ses cousins méchants. Un jour, alors que sonne la fin du jour d'école, la maîtresse, Miss Rogers, lui dit qu'il n'a plus besoin de travailler et qu'il peut commencer à vivre sa vie. Et du coup, il demande à Monsieur Buffet, un éleveur de dindes, s'il ne peut pas lui donner 1000 dindes bronze. Il refuse, mais Simon lui donne de l'argent et accepte finalement. Il part donc avec une calèche tirée par ses 4 mules et ses 1000 dindes et un muletier. En route, Simon va rencontrer 2 filles qui vont le suivre jusqu'à la fin du trajet. Il est parti du Missouri pour arriver à Denver. J'ai bien aimé ce livre car des épreuves et de nombreuses aventures passionnantes m'ont plu.
Pourquoi donc le titre s'appelle bien La Marche des Dindes ?
La longue marche des dindes, oui, c'est parce que en fait, ils vont traverser plusieurs régions, donc ça fait une bonne trotte. Donc,
est-ce que ça parle quand il arrive à sa destination ? Est-ce que le livre est fini ou alors est-ce que ça continue ? Mais est-ce qu'il y a une histoire aussi dans sa destination ?
À la fin de sa destination, non, ça continue pas. Il va s'arrêter. Puis après, je vais pas vous spoiler non plus, mais après, voilà, ça va s'arrêter là. Après.
Et moi, j'ai lu le livre, mais son père, il le retrouve jamais même dans son grand trajet.
Si, il le retrouve en arrivant dans une ville, ouais.
Et comment ils sont les dessins à l'intérieur ? Genre, il y a beaucoup de dessins ou il y a plus de textes ?
C'est plus qu'il y a plus de dessins que de textes.
Je suis d'accord, je l'ai lu.
Et tu trouves ça bien qu'il n'y ait pas trop de textes ? C'est facile, ça reste quand même facile à lire.
Si je trouve ça bien, je sais pas, parce que je lis quand même des gros livres, des gros romans, donc.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas non plus beaucoup de textes, genre tu comprends quand même bien l'histoire.
Ceux de 8 ans, ils pourraient très bien facilement le lire.
Et moi qui l'ai lu, je trouve ça bien. Il n'y a pas trop de texte, mais ça reste quand même. En gros, on ne lit pas en 5 minutes. Ouais. Il y a certaines BD, on les lit très vite.
Enfin, ça dépend pour qui, parce que moi, je l'ai lu très rapidement.
Ah oui, après, ça dépend de chacun. Si tu prends le temps de bien regarder chaque image, ou si tu lis plus vite en lisant que le texte. Eh bien, merci de nous avoir suivis et vous retrouverez vos chroniqueurs chéris le mois prochain. Allez, cette émission est terminée. Salut tout le monde.
Ciao.
Ciao, merci.
Ciao.
Au revoir.
Et comme dirait l'autre...
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.